Le journal est présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Les premières épreuves du nouveau bac annulées dans quelques lycées aujourd'hui. Des syndicats d'enseignants se mobilisent contre la réforme de Jean-Michel Blanquer. Nous ferons le point avec Sonia Princé. Des policiers mis en cause pour avoir frappé un manifestant à terre samedi à Paris. La scène a été filmée. Les syndicats de police défendent les fonctionnaires qui auraient répondu de manière proportionnée à la violence du manifestant. Loïc Travers du syndicat Alliance est l'invité de ce journal. Aux États-Unis, plusieurs centaines de partisans des armes à feu ont commencé à se rassembler à Richmond, en Virginie. Rassemblement sous haute tension. Le reportage sur place de Loïc Loury. Plusieurs syndicats d'enseignants ont tenté aujourd'hui de perturber les premières épreuves du nouveau bac. La réforme de Jean-Michel Blanquer qui met en place un contrôle continu pour les élèves de première dans plusieurs matières, histoire, géo, langue ou maths. Une réforme contestée au motif qu'elle aboutirait à une dévalorisation du baccalauréat traditionnel. Sonia Princé, le ministre de l'Éducation avait affirmé hier sur France Inter que tout allait bien se passer. En réalité, il y a eu quelques perturbations.
Oui, des blocages, des regroupements devant les lycées, des retards pour composer. 380 lycées faisaient passer ces premières épreuves du bac aujourd'hui. Mais selon le ministère, il n'y a que 5 établissements où elles ont dû être reportées. Ailleurs, elles ont pu se dérouler. Édouard Geffray, directeur général des affaires scolaires, interrogé sur France Info, minimise.
Premièrement, c'est effectivement très peu. Deuxième chose, on ne peut pas admettre qu'on ait des comportements qui sont non pas des comportements de grève, qui sont des comportements légaux, mais des comportements fautifs. Et évidemment, pour ces élèves qui n'ont pas pu passer ce matin, ils repasseront leurs épreuves dans les jours ou les 15 jours qui viennent. Ils ont un mois et demi pour les passer, donc ça se fera évidemment avec beaucoup de sérénité.
Le ministère ne comptabilise pas les lycées où seule une épreuve sur les trois est reportée. De son côté, le syndicat SNES, qui appelait à une grève de la surveillance, livre d'autres chiffres. Le détail avec Sophie Vénétité, secrétaire générale adjointe.
On a près de 40% des lycées où les E3C devaient se tenir aujourd'hui, dans lesquels la communauté éducative, professeurs, élèves, s'est mobilisée de différentes formes, donc que ce soit forme de grève, de manifestation, d'action symbolique, de distribution de tracts, d'action de la part des élèves. À la mi-journée, nous avons compté 10 lycées dans lesquelles les épreuves ont dû être reportées à un autre jour.
Et ça ne fait que commencer, puisque les sessions d'examen vont se dérouler jusqu'à fin février, début mars. On risque d'avoir de nouvelles perturbations dans les jours et les semaines qui viennent.
Sonia Princé, merci. Nouvelle intrusion aujourd'hui au siège parisien de la CFDT. Une quinzaine de militants de la CGT Énergie ont pénétré dans les locaux de la centrale de Laurent Berger. Ils ont coupé l'électricité avant de laisser des tracts contre la réforme des retraites. Le patron de la CFDT condamne cette intrusion, la deuxième en quatre jours. Laurent Berger qui affirme que son homologue de la CGT, Philippe Martinez, a lui aussi condamné cet acte à titre personnel. C'est une nouvelle vidéo qui relance le débat sur les violences policières, même si les syndicats de police réfutent cette expression générique. On y voit un policier frapper un manifestant à terre samedi à Paris lors d'un nouveau rassemblement des Gilets jaunes près de la gare de l'Est. L'homme a le visage ensanglanté et il ne semble pas représenter une menace pour les policiers. Après 48 heures de garde à vue, Clément, c'est son prénom, a été remis en liberté mais sous contrôle judiciaire, car il sera jugé le mois prochain pour des violence sur les policiers. Violence que conteste ce jeune homme de 20 ans par le biais de son avocate, maître Alice Becker.
Il est extrêmement choqué, il n'a qu'une hâte, c'est de retrouver sa famille. Il conteste les faits qui lui sont reprochés. D'un point de vue de la défense, on salue le fait qu'il n'ait pas été renvoyé en comparution immédiate et jugé dès aujourd'hui. Nous avions l'occasion de dénoncer la disparité de traitement entre les fonctionnaires de police qui sont identifiés et qui commettent des violences et des manifestants qui contestent par ailleurs, comme les policiers peuvent le faire, les violences dont on les accuse. Donc nous saluons le fait qu'il va être jugé plus tard et nous espérons qu'une enquête objective va pouvoir être menée. Les syndicats se sont largement exprimés devant les médias afin de dévoiler des éléments qui sont couverts par le secret. Nous, avocats, nous n'avons pas envie de développer et de répondre aux différentes allégations qui ont été portées contre notre client. Il est blessé et son seul souhait est de retrouver sa famille et un petit peu de sérénité après la violence de son interpellation.
Maître Alice Becker, alors justement, on va donner la parole à un syndicat de police, sachant que les policiers mis en cause ont porté plainte contre le manifestant. Invité de ce journal, Loïc Travers, secrétaire national du syndicat Alliance en Ile-de-France. Bonsoir.
Bonsoir.
Loïc Travers, que sait-on exactement des conditions de cette interpellation à la gare de l'Est ? Pourquoi le policier frappe-t-il ce manifestant alors qu'il est plaqué au sol ?
Alors, premièrement, il faut redonner tous les éléments de contexte. À la base, nous sommes dans une manifestation qui va dégénérer en attroupement avec des sommations d'usage pour que tout le monde se disperse. Et il y a plusieurs personnes qui vont tout simplement attaquer les forces de l'ordre. Et une en particulier qui va être amenée par le biais d'un descriptif très précis à être reconnue comme premièrement lançant des bouteilles et divers projectiles à tel point qu'une des bouteilles va se fracasser et exploser sur l'un de mes collègues. Et dans un deuxième temps, alors qu'une interpellation, notamment avec un officier, est en train de se dérouler, eh bien cette même personne va se jeter sur nos collègues et sur cet officier, va lui porter plusieurs coups de pied et des coups de poing, ce qui va avoir pour effet d'ailleurs de libérer la personne qu'ils étaient en train d'interpeller. Donc cette personne est clairement identifiée. À ce moment-là, effectivement, elle continue à venir au contact. Elle va faire l'objet d'une riposte par les policiers. Elle va tomber à terre et ensuite, cette personne va être écartée, mis le long d'un mur, ce sont les images que l'on voit à la télévision et en boucle depuis ce week-end. Un autre collègue, effectivement, va venir parce qu'il va voir cette personne, a une plaie au niveau de la tête, va essayer de voir ce qui se passe pour lui porter les premiers secours. Et à ce moment-là, cette personne qui est allongée, non menottée, c'est très important de le dire, sur le sol, va cracher une première fois au visage de mon collègue, cracher notamment du sang, ce qui va l'impacter au niveau du visage et au niveau de la bouche. Puis, une deuxième fois, cette personne, après avoir, je la cite, dit « j'ai le sida, tu vas crever », alors qu'elle s'apprête à lui faire un deuxième crachat, notre collègue répond dans le jargon policier, par le biais d'un atémi ou d'un coup porté pour dévier le crachat, ce qui fait que le crachat se retrouve sur sa veste et, alors qu'il est particulièrement motivé, recommence une troisième fois à cracher au visage du collègue. Et là, ça va l'atteindre sur le haut de son casque et sur les lunettes de protection. Notre collègue a été donc hospitalisé et a subi un certain nombre de traitements médicaux, dont notamment une trithérapie préventive, puisqu'on ne sait pas si la personne qui a proclamé qu'elle avait le sida l'avait véritablement. En tout cas, des mesures de précaution ont été prises de ce point de vue-là.
Donc pour vous, les coups portés par le policier, c'était en fait une riposte proportionnée à la menace constituée par les crachats du manifestant ?
Tout à fait. Je rappelle que ce collègue, effectivement, est aux prises directes avec l'individu. On nous a reproché la semaine dernière un certain nombre de techniques, la technique de l'étranglement, la technique du plaquage au sol, notamment ventral. Là, il était sur le dos, malheureusement. Quand vous êtes sur le dos, vous vous exposez soit des coups de tête, soit des coups de genoux, soit des coups de pied ou tout simplement des crachats. Donc pour le faire cesser effectivement ces crachats et permettre l'interpellation, notamment le menottage dans de bonnes conditions, il a utilisé la force nécessaire et non pas la violence, comme j'ai entendu, pour pouvoir maîtriser cet individu.
Loïc Travers, est-ce que d'une façon générale, les policiers doivent faire face à une radicalisation de certains manifestants ces dernières semaines ?
C'est indéniable. Il est très clair que depuis 2016, nous avons de nouveau des manifestations de grande ampleur qui ont dégénéré en France. 2016, c'était les fameuses manifestations contre la loi El Khomri, la loi travail, et effectivement les gilets jaunes depuis plus d'un an. Alors, soit quand il y a des black blocs ou tout simplement par le biais de gilets jaunes radicalisés, il y a des violences inouïes qui sont commises et c'est quasiment toutes les semaines en Ile-de-France, mais aussi en province. Et il est vrai que quand j'entends tout un tas de gens dire qu'on ne peut plus utiliser certaines techniques, alors quand on ne peut plus utiliser le lanceur de balles, qu'on ne peut plus utiliser la matraque télescopique, qu'on ne peut plus utiliser tout simplement les gaz lacrymogènes, qu'on ne peut plus utiliser la technique ventrale du plaqué au sol, qu'on ne peut plus utiliser l'étranglement, à un moment, je crois qu'il faut être un petit peu sérieux. Les policiers ne vont pas finir en tutu dans la rue pour interpeller des gens. Le but pour les policiers, c'est tout simplement l'usage de la force qui est prévue par la loi. Ce qu'on appelle la force légitime, contrairement aux violences illégitimes telles que je l'entends. Donc à partir du moment où la défense et la réponse, elle est proportionnée, alors il n'y a pas de souci.
Christophe Castaner, s'agissant de l'affaire de la Gare de l'Est, dit qu'à l'heure qu'il est, il ne voit aucune explication à ce qu'il s'est passé, au fait que le manifestant ait été frappé à terre.
Écoutez, moi j'ai un certain nombre d'éléments extrêmement précis sur cette affaire. C'est pour ça d'ailleurs que je me permets de m'exprimer dans votre média et dans d'autres. Je l'invite à se procurer les procès-verbaux et ce sera sans doute beaucoup plus facile pour lui d'avoir ces éléments de contexte de pourquoi cet homme a été interpellé, quelles exactions il a commis et pourquoi effectivement, à un moment, ce qui aurait pu être interprété comme des violences illégitimes sont une réaction d'un policier qui subit une agression et subit notamment 3 crachats avec du sang qui va d'ailleurs avoir pour effet de le positionner sous trithérapie, est suffisamment traumatisant, et ça, il faut le rappeler.
Loïc Travers, secrétaire national du syndicat de police Alliance, merci d'avoir été l'invité de France Culture. Il est considéré comme l'un des principaux recruteurs de djihadistes en France. Le procès de Mourad Fares a débuté aujourd'hui devant la cour d'assises spéciale de Paris. Cet homme de 35 ans d'origine marocaine est accusé d'avoir fait partir en Syrie des dizaines de jeunes entre 2013 et 2014. Parmi eux, on trouve le Strasbourgeois Foued Mohamed Agad, l'un des futurs kamikazes du Bataclan. Florence Turme, la cour a essayé aujourd'hui de comprendre la radicalisation de Mourad Fares.
Image lisse, voix calme et posée, difficile d'imaginer Mourad Fares, un recruteur de djihadistes associé au très influent Omar Diaby, celui qu'il dépeint comme son mentor et dont il dénonce aujourd'hui les thèses affreuses et l'emprise sur lui. Élève doué, mais qui éprouve après un bac S une certaine difficulté à trouver sa voie. Cursus interrompu, mission d'intérim, un garçon apparemment sensible, marqué par la mort de son cousin Germain, c'est ce qu'il met en avant pour expliquer sa quête de spiritualité, prélude à sa future radicalisation. Un homme qui refuse aujourd'hui d'évoquer certains éléments de personnalité, et notamment son homosexualité, sur laquelle la présidente et l'avocat général s'arrêtent pourtant à plusieurs reprises comme une part possible d'explication. Personne complexe, confirme à la barre des témoins l'un de ses anciens compagnons qui a assisté à son repli sur lui, son bourrage de crâne avec des vidéos, mais c'est aussi, dit-il, un leader qui sait convaincre. Sur le banc des accusés, Mourad Fares garde la tête baissée, désormais confronté à l'exposition médiatique qu'il semblait redouter. Mieux que les experts, c'est sans doute un autre de ses amis qui résumera le personnage. Il a préféré la religion à son orientation sexuelle. Il y avait là une contradiction qu'il avait beaucoup de mal à assumer.
Florence Turme depuis le palais de justice de Paris. Sept hommes soupçonnés de préparer un attentat ont été interpellés ce matin à Brest dans le quartier de Pont-à-Nézen. Parmi les personnes arrêtées par la DGSI, on trouve des individus fichés S pour leur appartenance à la mouvance islamiste radicale. Ces sept hommes préparaient une action violente selon une source proche de l'enquête, sans plus de précision à ce stade. Ils avaient aussi l'intention de se rendre dans la zone irako-syrienne. C'est un rassemblement qui inquiète une partie de l'Amérique. La ville de Richmond, capitale de l'État de Virginie, accueille cette semaine des centaines de partisans des armes à feu. Les autorités ont placé l'événement sous haute surveillance car il pourrait attirer des suprémacistes blancs ou des miliciens hostiles au gouvernement fédéral américain. En novembre dernier, les démocrates sont arrivés au pouvoir en Virginie et ils entendent bien renforcer le contrôle des armes, ce que rejettent les manifestants de Richmond. Le reportage sur place de Loïc Loury.
Les armes sauvent des vies, cet autocollant orne la poitrine de la plupart des manifestants. Julian, notamment, vient du Mississippi. Il fait la queue dans le froid pour rejoindre le Capitole et défendre son droit à porter une arme.
Je crois dans le second amendement. Je crois que porter une arme, c'est la fondation de toute république libre.
Pas de guerre civile en vue. Pour autant, rassure-t-il, face à la crainte de débordement, tout va bien se passer.
Les gens armés ne sont pas violents. Les manifestants ici ne sont pas violents. Je crois qu'ils sont détendus et tout va se passer sans accro.
De l'autre côté de la barrière, Robert, qui se dit milicien, sans plus de précision, reste lui à l'extérieur. Il ne compte pas lâcher le fusil d'assaut qu'il porte en bandoulière.
Juste pour ma protection. Je veux dire, si quelque chose arrive à l'intérieur, vous êtes piégé. Pas moyen de s'échapper. Mais ce n'est pas politique. Nous sommes ici pour défendre la Constitution.
Les supporters de Donald Trump pourtant ne sont pas loin, comme Jean, qui promet qu'il y a bien des démocrates aujourd'hui à Richmond.
C'est très bipartisan. La Virginie compte des démocrates et des républicains, et la plupart comprennent l'importance du second amendement. Regardez le Venezuela. Tous ces autres pays, on leur a pris leurs armes, et maintenant ce sont des pays socialistes, et les gens souffrent beaucoup.
Mais sa démonstration devrait plutôt parler aux détenteurs d'armes qui, en 2016, ont voté en bonne majorité pour l'actuel président.
Loïc Loury, envoyé spécial à Richmond en Virginie. Pendant ce temps-là, les avocats de Donald Trump ont appelé aujourd'hui le Sénat américain à acquitter immédiatement le président des États-Unis, et cela à la veille de l'ouverture des débats sur son procès historique en destitution. Donald Trump, lui, n'est pas personnellement appelé à comparaître et il doit s'envoler dans la soirée pour Davos, en Suisse, où il pourra assister au Forum mondial de Davos. Retour en France avec le temps demain marqué par un puissant épisode méditerranéen autour du golfe du Lion. Les Pyrénées-Orientales sont en vigilance orange. Il neigera aussi à basse altitude dans les Cévennes. Au nord, le temps sera calme et ensoleillé après la dissipation des brouillards matinaux parfois givrants. Les températures minimales seront comprises entre moins 4 et 9 degrés. Les maximales iront de 5 à 15 degrés du nord au sud. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Annie Brault.